Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. France Inter, terre de contraste. Ce matin, vous avez pris votre chicorée en écoutant Marine. Au micro de la matinale, nous, on vous propose un thé avec Marraine. Oui, c'est Marraine, notre invitée. Autrement dit, Pénélope Bagieu. Et certes, il s'agit de deux femmes au caractère bien trempé. Mais on dira que c'est là leur seul point commun, même si toutes les deux ont des convictions profondément ancrées. Ancrées avec un E dans le cas de Pénélope, puisque l'encre est son outil, comme elle le prouve une fois encore avec Strat, son dernier ouvrage. En noir et blanc, où le noir et le blanc sont traités avec les mêmes égards, ce qui souligne un peu plus encore la différence entre Marine et Marraine. Oui, c'est chouette de recevoir Marraine, c'est chouette d'avoir une marraine tout court d'ailleurs, autrement dit quelqu'un sur qui on sait que l'on peut compter si nos parents sont défaillants, comme c'est le cas pour les miens qui ont tellement défailli qu'ils ne sont plus de ce monde. Et j'espère que Marine aura aussi une marraine, même si son papa est toujours là et bien là. Enfin bon, ce n'est pas le moment de s'épancher, mais plutôt de se pencher sur le nouveau livre de Marraine, puisqu'elle-même se penche avec drôlerie et le talent culotté que l'on connaît sur ses souvenirs à elle. Cette émission a pour titre Pénélope Pop 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 et Pop Pop Pop, bah c'est parti.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour, c'est Pénélope Bagieu. Aujourd'hui, je suis l'invitée d'Antoine de Caunes et de Charline Roux dans Pop Pop Pop. Et on va parler de ma dernière bande dessinée, bien sûr, mais aussi de films, de séries, de BD, de livres, de musique, de tout ce qu'on aime. Donc j'ai super hâte.
Oh, on va parler de tout ça.
Bon, ouais.
Bon, c'est enfin un programme. Bonjour Pénélope Bagieu. Bonjour et re-bienvenue dans Pop Pop Pop. Pénélope, comme je le disais, vous êtes la marraine de cette émission qui est née en 2017. Est-ce que vous êtes contente de votre petite filleule?
Oui, je suis venue avec mon petit chèque pour son anniversaire.
Oh,
comme
mais ça
année.
C'est trop gentil. Bah, t'as attendu la fin de l'émission. Vous vous souvenez, au début, elle arrivait à peine à prononcer Pop 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 Pop. Elle a fait des progrès quand même.
Bah, oui. Ah.
Nous approchons, vous savez, presque de la millième émission. Bien sûr, vous les avez toutes écoutées, en
bien
tant
sûr.
Que marraine, hein, consciencieuse. Mm-hmm. Et vous, quand vous regardez vos premiers dessins, Pénélope, est-ce vous dites quoi? Sous Pénélope, percée déjà Bagieu?
Mais sous mes premiers dessins?
Ouais, ouais.
Bah, ils sont super. Je dessine comme maintenant, mais un peu moins maîtrisé techniquement. Mais il y a des trucs que je dessine toujours pareil, quand même.
Comme quoi, par
l'époque.
Exemple?
Les tortues, je dessine toujours pareil. Comme beaucoup d'auteurs de BD, je dessine toujours pareil les cadeaux, dans une boîte carrée avec un nœud dessus, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, mais ça m'est resté, voilà, des trucs comme ça.
Donc vous trouvez des vrais points d'accroche entre votre premier dessin, vos dessins de débutante et ceux d'aujourd'hui?
Et oui, surtout que je faisais des livres quand j'étais petite, avec des agrafes et tout, donc il y avait quand même déjà un vrai lien avec maintenant.
Et l'envie d'être publié.
Je m'auto-éditais, j'avais créé ma maison d'édition.
Qui s'appelait comment?
Des éditions... Ah merde, il faudrait que je retrouve. Et j'avais fait un petit logo du Lion d'Or, je crois.
Oh.
Ouais. Bon, c'était très mignon. Hein. Ouais.
Oh. Ouais, ouais. Bon, on va revenir là-dessus. Au menu également de ce nouveau numéro de Pop Pop Pop. La venue de Métronomie tout à l'heure sur scène pour un live. Mais avant ça, intéressons-nous à Marraine, notre reine. Bref, à notre marraine, Pénélope Bagieu. Pénélope, vous nous suivez donc depuis très longtemps, depuis les balbutiements de cette émission. Nous vous suivons depuis très longtemps. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter Les Strates, votre premier récit autobiographique édité chez Gallimard. Est-ce que c'est un récit qui lui-même a des parrains et des marraines?
Vraiment, pour une fois, non. Hein. Autant d'habitude, je montre beaucoup ce que je fais, je demande beaucoup l'avis des gens. Et là, je l'ai vraiment fait toute seule, donc c'est rare que je dise ça, mais vraiment là, non. Hein. Mm-hmm. C'est mon livre à moi, toute seule.
Mais pourquoi? Vous ne vouliez pas le montrer?
Parce qu'à l'origine, je voulais pas forcément en faire un livre, que j'écrivais ça dans mon coin. Et quand j'ai eu un volume conséquent de pages, je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas faire un livre. Mais je pense que si je m'étais dit que ça, c'était destiné à être dans un livre, je ne l'aurais pas écrit.
Mm-hmm. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Nous allons en parler ensemble et avec Charline Roux jusqu'à 17h. Mais quand je vous vois, Pénélope Bagieu, je pense au groupe Brigitte. Parce que je sais que vous avez dessiné une des pochettes de leurs albums. Alors à défaut de pouvoir voir cette pochette, puisque nous sommes à la radio, je vous propose d'écouter un de leurs titres.
Soyez voyous, toi, mon tout, mon loup-bas. Madagascar Superstar.
Battez-vous dans Pop 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 et dans la vie en général, c'est sur France Inter. C'est un morceau signé Brigitte, un groupe qui a fait appel à notre invitée Pénélope Bagieux pour ses talents de dessinatrice. Alors pourquoi avoir dit oui d'ailleurs au Brigitte plutôt qu'à Francky Vincent par exemple?
Parce qu'il ne m'a pas proposé.
Francky Vincent ne vous a pas proposé une pochette?
Non, ni de faire le menu de son restaurant, rien.
Mais je vais remédier à ça, mais dès ce soir Pénélope. En Pénélope, avant de passer au récit autobiographique Les Strates, dans un instant avec Charline, intéressons-nous à vous. Directement, Pénélope, vous êtes l'autrice de la BD à succès culotté, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, pour reprendre le pitch. Cette série est un véritable phénomène pop, et comme tout phénomène pop, culotté a eu le droit à des adaptations.
Australie, 1895. La petite Annette Kellerman souffre de la polio. Personne ne sait comment la soigner.
On va essayer quelque chose. Oh. Nage, Annette, nage.
Et ça marche.
Un extrait de Culotté, version animée pour France Télévisions. J'imagine que vous avez été très sollicité. Quelle a été votre limite à l'adaptation, justement?
Pour le dessin animé des Culottés?
Oui. Est-ce que vous êtes dit, allez, maintenant, on fait tourner ça et l'adapte qui a envie, qui veut, ou vous avez...
Je voulais être rassurée par les gens qui allaient le faire, une bonne fois. Donc on a pris un café avec absolument tout le monde, les productrices, les scénaristes, les réalisatrices, tout ça. Il n'y avait pas Cécile de France au café, mais je savais que c'était elle qui allait le faire. Et la façon dont elles m'ont parlé de mon livre m'a fait que je me suis dit, c'est bon, je file les clés et j'ai toute confiance. Et le résultat était au-delà de mes attentes. Je ne dis pas ça de manière américaine, quoi. C'est vraiment sincère. Je la trouve incroyable, cette série.
Après 5 années passées à New York, vous êtes revenu vivre ici à Paris, et c'est comme si vous aviez récupéré vos anciens chaussons, avez-vous dit. Tout de suite, vous avez recommencé à gueuler sur tout le monde, dans la rue, comme tout le monde à Paris. Et pardonnez-moi cette question Psychologie Magazine, mais ça fait quel effet de se retrouver dans un univers comme ça?
Mais moi, je suis rentrée pour me confiner, donc c'était des chaussons un peu nuls quand même, mais c'était mes chaussons. C'est-à-dire que je me suis dit, quitte à être enfermée chez moi et à avoir comme seule sortie aller au Franprix, et ben c'est rassurant que ce soit chez moi, que ce soit une façon de communiquer avec les gens que je connais par cœur et qui est intuitive. Et en plus, je suis pas juste rentrée en France, je suis rentrée à Paris, donc effectivement, une espèce de façon de se gueuler dessus, mais qui est assez tendre entre nous, parce qu'on... On sait ce que ça veut dire quand on est désagréable.
Alors attendez, une façon assez tendre, ça donne à peu près ça quand même. C'est ça ? Ouais.
Ouais, mais moi j'ai connu que ça depuis que je suis petite, donc ça me choque pas.
Ça vous choque pas du tout.
J'essaie de trouver, je comprends les nuances et les subtilités de langage au sein de ça,
ouais. Enfin, l'automobiliste là, qui avait étrangement une voix proche de la mienne, hein, ce n'est pas vous, car vous, votre moyen de vous défouler, Pénélope, ce sont les réseaux et plus particulièrement Twitter. Car vous énervez sur Twitter, dites-vous, c'est votre routine beauté.
Oui, ça l'est plus parce que j'en suis partie cet été.
Ah, vous avez quitté les réseaux ?
Momentanément, mais je voulais voir faire un test, je voulais voir ce que ça faisait de pas aller sur Twitter pendant ma semaine de vacances où je faisais que lire des livres. Et après, j'y suis pas retournée parce qu'en fait, ça m'a pas manqué. Ça me manque parfois parce que j'ai l'impression de jamais être au courant de rien. Ouais. Mais c'est un confort dans le déni d'être au courant de rien qui est quand même pas désagréable en ce moment.
C'est impossible de ne pas être au courant des choses qui se passent, même sans être sur les réseaux.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut que les choses arrivent vraiment fort et que tout le monde soit au courant pour que moi aussi je sois au courant maintenant. Ouais. Alors qu'avant j'avais l'impression d'être un peu une insider. Quoi.
Mais c'était un exutoire aussi pour vous, le Twitter.
Ouais, mais en fait, assez stérile. Je sais pas, je pense à voix haute, hein, parce que je suis pas arrivée au bout de trop de cette réflexion-là, mais je suis quand même plus... tranquille depuis que j'y suis plus, parce que moi je vais y aller vraiment pour m'énerver, donc voilà, maintenant je m'énerve plus,
vous avez gardé gagné en sérénité en...
Mais, alors, c'est intéressant, est-ce que c'est parce que j'y étais en fait que je m'énervais autant?
Non, mais avant vous étiez enragée.
Je suis quand même toujours une rageuse.
Oui,
je suis une grosse rageuse.
Vous étiez une grosse rageuse. Et le quotidien, c'était votre carburant, donc vous avez pris vos distances.
Mais là, je fais une pause de la rage, voilà.
Je fais une pause dans la rage.
Ouais.
Bon, je note
cette
phrase.
Des années de vie, peut-être, en faisant ça.
Je note cette phrase, je me permettais de la tweeter, bien sûr.
Bien sûr.
Une pause dans la rage.
Je ne le verrai pas, de toute façon, alors.
Claire Pénélope Bagieux. Bon, j'ai partagé vos tweets et votre colère. Je peux vous dire que nous avons traversé les mêmes étapes de rage. Je m'explique. Cet été, j'ai vu un de vos posts et je peux vous dire que mon sang n'a fait qu'un tour. C'est cette image de vous en train de monter un meuble Ikea. Avec à la main une pièce restante et une fois le meuble monté, un tourillon, pour être précis. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, dans ces moments éprouvants du quotidien?
Moi, j'ai préféré me dire que c'était fait exprès, qu'on avait mis une intro.
Ah, c'est pas mal, ça.
Ouais. Maintenant, c'est comme ça aussi que je prends les problèmes. C'est en inventant une réalité parallèle dans laquelle les mecs d'IKEA ont mis une pièce en trop. Je sais que c'est faux. Je sais que ça n'existe pas, une pièce
en trop.
Vous
savez que c'est faux.
Ouais.
Parce que ce serait un complot des employés d'IKEA, donc pour venir à bout de votre raison.
Non, mais par gentillesse. Je veux dire, la pauvre, peut-être que ce serait bien de lui en mettre une en plus. Et ben, le meuble tient, au fait. Finalement, c'est une belle fable, cette histoire, parce que je sais pas ce que c'était que cette pièce, mais mon meuble tient.
Bon, le meuble tient. Voilà la bonne nouvelle de la journée de Pénélope Bagieux, qui a quitté les réseaux et qui donc s'enrage moins qu'auparavant. Nous sommes d'accord?
Ouais.
Bon, on part sur ces bases-là. Bon, Pénélope, avant de parler de strat dans un instant, un mot sur votre méthode, parce que vous ne travaillez pas ni en silence ni en musique, mais vous écoutez des podcasts.
Oui.
Une méthode pour ne pas avoir l'impression d'être toute seule, dites-vous.
Mais c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'écriture d'une bande dessinée où il faut être tout seul et être super concentré. Bon, après, c'est ma méthode. Il y a plusieurs méthodes.
Ouais.
Mais après, il y a aussi une très très longue période où il faut juste dessiner. Et on n'a pas tellement besoin d'être concentré, et c'est très long, et on est assez seul. Après, moi j'adore être toute seule, mais j'aime bien faire semblant de pas l'être, et vivre 1000 vies pendant que je suis en train de faire mes couleurs et mes petits trucs. Et c'est vrai que pour ça, les podcasts, c'est pas mal. Par grosse phase intensive où j'écoute tout de un podcast.
Vous avez une préférence en ce moment?
Alors, c'est pas parce que je suis ici, mais j'avoue que pour la partie des strates où j'ai eu besoin de faire ça, c'est un livre très affaire sensible.
Affaire sensible. Ah ouais. Fabrice Drouet, mon chouchou.
À gogo.
Oh, bah écoutez, il va être extrêmement flatté, je peux vous dire.
J'aurais pu le mettre dans les remerciements.
Oh là là, Fabrice, je sais que vous nous écoutez, voilà. Ceci vous est dédié. Bon, ce travail dont je parlais s'appelle Les Strates. On va en parler dans deux minutes avec Charline, juste après Life on Mars, d'un certain David Bowie. Et ça, c'est pour faire plaisir à la bowiste que vous êtes dans la main. Pénélope Bagieu.
Bravo.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charline Heroux. Car oui, voici venu le moment d'accueillir le pop de pop, pop ou le pop, pop de pop. Enfin bref, Charline Roux, quoi.
Ou le pot, tout simplement.
Mais non. Bonjour. Alors, bonjour, Charline. Charline, vous avez lu Les Strates, le récit autobiographique de Pénélope Bagieu, édité chez Gallimard, et...
Et petites et grandes histoires qui ont construit la femme que vous êtes aujourd'hui, ma reine. Récit doux amer d'enfance, d'adolescence. C'est émouvant, c'est parfois grave, c'est parfois drôle. C'est la première fois que vous vous racontez, enfin... Pas vraiment, parce qu'à vos débuts, vous teniez un blog dessiné, ma vie est tout à fait fascinante, un blog autobiographique, au contenu certes fascinant, mais plutôt complètement rigolo. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous pouviez vous raconter sans le filtre de l'humour ?
En me racontant vraiment, parce que mon blog, ça me racontait pas. C'était utiliser des trucs qui m'arrivaient et trouver comment le tourner en une image marrante. C'était vraiment de l'exercice de style de comédie. Ça aurait pu être la vie de quelqu'un d'autre, c'était pareil en fait.
C'est-à-dire que pendant toutes ces années, vous nous avez menti ?
Non, c'était souvent, ça venait quand même vraiment de moi, mais voilà, c'était pas forcément très très personnel.
Alors, premier récit autobiographique, mais est-ce que peut-être, d'une certaine manière, par les portraits de femmes que vous avez composés dans vos ouvrages précédents, vous avez eu l'impression de vous raconter, vous, un peu aussi?
Ah bah quoi, carrément, oui. Avec des perruques. Mais oui, c'est une première étape vers l'autobiographie, la biographie, parce que ne serait-ce que le choix des femmes dont je parle, c'est parce que je trouvais un petit truc à tisser entre nous, où je me disais que leur parcours me touchait pour une raison que j'arrivais pas bien à m'expliquer à chaque fois, mais je me disais, ah, j'aurais réagi exactement comme elles. Donc, de toute façon, on parle tout le temps de soi. C'est pas moi qui l'ai dit, hein.
C'est qui?
Je crois que c'est Flaubert, non?
Exactement. Madame Bovary, c'est moi.
C'est loin. C'est vous?
Non, je ne suis pas Flaubert.
Ah.
Non, Flaubert a dit, Gustave, Flaubert a dit, Madame Bovary, c'est moi.
D'accord, c'est vous donc. Ces histoires, ces strates, vous avez commencé à les dessiner, les écrire quand? Et est-ce qu'elles ont été amendées avant publication?
Je crois que la plus vieille, je l'ai écrite il y a 8 ans, 8-9 ans. Et puis après, rien pendant des années, puis parfois 3 en un mois parce que j'avais plein d'idées, et puis rien pendant des années. Voilà, vraiment au gré de l'envie à chaque fois.
Oui, donc ça s'est vraiment construit par strates.
Ouais, hein, sauf qu'en fait, j'ai pas gardé l'ordre chronologique non plus, mais ouais.
Alors, les strates, si vous ne connaissez pas la définition, faites comme moi, faites appel à Siri. Siri, il arrive. Voilà, mets-toi. Voilà, c'est bon. Alors, Siri, c'est quoi les strates?
C'est au programme de CM2.
Oui, non, mais d'accord, mais c'est quoi?
C'est la couche géologique constitutive d'un terrain.
Merci Siri. Allez, dégage. Pénélope, vous avez eu l'idée du titre en vous replongeant dans l'émission C'est pas sorcier de Fred et Jamy ou quoi?
Non. J'ai eu l'idée parce que j'aimais bien le fait d'imaginer que les choses se sont comme ça déposées au fur et à mesure pour faire une espèce de petit millefeuille comme ça qu'on voit en coupe et qui forme un tout et où on continue à voir toutes les couleurs, toutes les épaisseurs et qu'on peut toujours avoir accès à un événement géologique qui est arrivé il y a des millions d'années.
Mmh.
Enfin là, non, mais il y a moins longtemps. Mais...
D'accord. Pourquoi me regarder comme ça, Charlie?
Bah, parce que je sais pas, comme ça, je regarde.
Comme si vous étiez fasciné.
Ouais, un peu.
Parce que j'ai trouvé Gustave Flaubert comme ça.
C'est ça, tout à fait.
D'accord. Dites-moi, ma chère Pénélope, quand on se lance dans une forme d'autobiographie, on se demande jusqu'à quel point il faut transformer les histoires, les différentes histoires, pour qu'elles en deviennent une seule et unique. L'intérêt scénaristique doit-il primer sur la véracité des faits ou les souvenirs qu'on en a? Voilà les questions que vous posiez, mais vous n'avez pas triché, c'est ça?
C'est-à-dire que quand je me disais que ça... Alors c'est dommage, ce serait mieux si ça se terminait pas comme ça, si ça se terminait pas comme dans la vraie vie, j'avais l'impression que ça se voyait comme si j'avais changé de crayon en plein milieu et que tout le monde allait le voir et dire « là, elle invente ». J'ai l'impression que c'était évident que ça allait se voir tout de suite et que du coup il fallait mieux raconter la pauvre fin, la triste vérité dans les histoires, même si elle était moins rock'n'roll qu'un quelque chose que j'aurais pu inventer.
Et les strates s'ouvrent sur l'histoire de Fumé, gros bébé chat que vous avez eu enfant et qui vous a accompagné 19 ans. Ça n'a rien d'anecdotique, c'est une première histoire qui a quelque chose de l'intro de Là-haut de Pixar, je trouve, un cycle entier de vie, une histoire à la fois drôle et triste. Ouais, un peu. C'est-à-dire que c'est à la fois très émouvant et très drôle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir le livre par cette histoire en particulier, en dehors d'une forme d'affirmation de votre amour inconsidéré des chats?
Alors, il y a ça. Je trouve que c'est un super fil rouge des années qui sont traversées dans les strates. C'est que j'ai eu ce chat quand j'étais vraiment petite et je m'en suis séparée quand j'étais jeune adulte. Il est un petit peu ma petite coccinelle de Gottlieb quand même dans le livre. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là, ce chat. Et il a vraiment tout accompagné, donc c'était une bonne ouverture. Ouais.
Et alors d'ailleurs, comment est-ce que vous avez organisé la narration? Puisque vous le disiez, les histoires ne se suivent pas de manière chronologique.
Non, c'était très compliqué de trouver dans quel ordre j'allais les mettre. J'ai fait appel à mon éditeur, parce qu'après tout, il sert aussi à ça.
Ah oui.
Et je lui ai dit, tiens, voilà mon gros paquet d'histoires, propose-moi un ordre qui te paraît intéressant en termes de comment les histoires se répondent. C'est bien qu'on ait conscience de certaines choses qui se passent après, pour mieux comprendre certains éléments, etc. Donc il m'a proposé une liste que j'ai évidemment après remanipulée, mais qui m'a servi de base. Et à la fin, je trouvais que ça marchait, c'était cohérent. Ça commençait par quelque chose qui traverse toute ma vie et ça se termine par quelque chose qui m'accompagne pour la suite, après, dans ma vie d'adulte, donc ça marchait bien.
Pénélope Baggio, c'est un livre qui questionne sur la nostalgie, pas la radio, mais sans jamais y verser, et donc sans indulgence non plus. Ces deux écueils que vous évitez plutôt brillamment, c'est facile de naviguer ainsi dans les eaux du passé sans heurter des écueils justement.
Alors la nostalgie, c'est très facile pour moi de pas tomber dedans, que j'en ai pas. Mmh. J'ai vraiment aucune nostalgie de mon adolescence. C'est un tunnel que je suis ravie d'avoir terminé de traverser. L'enfance, pas particulièrement non plus. Moi, j'ai adoré être adulte, hein. Donc c'est pas très très compliqué de raconter mon adolescence sans l'armichette. Après, c'est une époque que je trouve belle. C'est-à-dire que je trouve que les années 90, c'est super. J'aurais jamais fini de trouver que c'était une époque géniale à tous les niveaux. En tout cas, musicalement, au moins. Et ça faisait une toile de fond sympa pour raconter une histoire. Mais pas tomber dans la nostalgie, c'est assez facile, en fait, quand on n'en a pas.
Il est aussi question dans la bande dessinée des affres de la séduction, d'amour de jeunesse qui ne permettent donc justement pas de céder à la nostalgie, tout le monde a détesté ça. Des histoires dans lesquelles généralement vous ne vous ménagez pas, on est d'accord que toute héroïne digne de ce nom se doit d'être un peu gauche, au moins au début. Est-ce qu'il y a un certain plaisir à se dessiner à ces âges-là qui sont réputés ingrats? Est-ce qu'il y a un certain plaisir à se dessiner tout court?
Waouh, beaucoup de questions en une. Ouais. Alors, à se dessiner tout court, oui, parce que c'est hyper facile, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile au monde, de prendre soi-même comme personnage. C'est vraiment l'acteur le plus facile à diriger, quoi, parce que c'est moi qui joue moi, donc je connais toutes mes têtes et j'ai aucune peur à vraiment maltraiter le personnage, c'est-à-dire que je peux y aller, c'est moi. Et pour ce qui est de l'indulgence, moi j'en ai beaucoup et j'espère que c'est ce qui ressort aussi du livre, c'est que c'est vraiment trop facile de se moquer des ados, je trouve. En fait, c'est un ressort hyper classique de se moquer parce que tout le monde déteste voir des photos de soi ado. On est moche, on est mal habillé, on a le visage qui pousse bizarrement, on a des colères un peu, on a un peu envie de rouler des yeux quand on lit son journal de quand on avait 14 ans. Mais en fait, on faisait ce qu'on pouvait. Donc, moi, j'essaie d'être gentille avec la personne que j'étais en me disant « tu faisais bien ce que tu pouvais » alors que c'était quand même une époque bien nulle. Donc,
non, mais c'est ça, c'est que vous êtes sans indulgence vis-à-vis de vous-même, mais avec beaucoup d'indulgence pour les personnages et puis
d'une forme d'admiration aussi, parce que je me replace dans cette époque et je me dis qu'est-ce que c'était nul, tout était quand même, j'avais le contrôle sur rien, c'est quand même ça qui est un peu dur. Et je me suis rendu compte que tous les récits d'adolescence que j'aime, que ce soit en série télé, en roman, en BD, à chaque fois le point commun c'est que c'est écrit à hauteur de d'ado et pas du tout avec un regard rétrospectif un peu cynique sur quel look de merde. Oui, quel look de merde. C'est universel.
Mais... ça revient, vous savez.
Et en plus, ça revient.
Regardez-nous. Un passage du livre, je dois le dire, m'a terrassé. Je pense qu'on est une armée dans ce cas-là. C'est le passage qui s'appelle le doudou, celui qui parle de votre grand-mère au moment où elle a décidé qu'elle en avait assez et qu'il fallait qu'on la laisse partir. C'est très beau, c'est raconté avec beaucoup de pudeur. Comment est-ce qu'on convoque, comment est-ce qu'on aborde ce genre de souvenirs quand il faut les dessiner?
Bah, je m'étais un peu entraînée parce que dans ma bande dessinée précédente, Sacrée Sorcière, j'avais dessiné ma grand-mère pendant 300 pages, donc je m'étais un peu chauffée la main quand même. Il faut que ce soit quelque chose un souvenir qui soit bouclé, en fait. Je pense que ça aurait été trop dur si jamais c'était pas quelque chose qui était réglé dans ma tête, ou si c'était un souvenir trop récent. Là, c'est quand même un vieux dossier. Et puis c'est vrai, quoi, c'était assez apaisé. Parce qu'en fait, c'est une conversation que j'ai eue avec elle. J'ai eu la chance de la voir sous la main quand j'étais encore adulte pour qu'elle me fasse accepter l'idée de la mort et du deuil. Donc, on a eu le temps d'en parler, le temps que je me prépare à ça et au fait que elle n'allait plus être là. Et du coup, c'est assez doux, en fait. C'est quand même la chance qu'on a de pouvoir faire revenir en dessin des gens et revivre des moments. C'est pas triste du tout. Mais j'avais peur que ce soit triste, par exemple, pour ma sœur. J'avais peur que de le relire, elle, ça lui fasse de la peine. Et en fait, pas du tout.
C'était émouvant. Ouais. C'est pas triste, mais c'était émouvant.
Ouais, et puis elle m'a dit, c'est bien elle. T'as bien fait ses mains, c'est bien elle.
On parlait de réécrire les histoires, mais dans certains cas, c'est tout simplement les écrire parce qu'elles ont été tues trop longtemps et que la honte doit changer de camp. Je pense au chapitre déjà vu, dans lequel vous racontez deux agressions sexuelles subies enfants et ados. Racontez encore une fois avec force et intelligence. Comment est-ce qu'on trouve la juste tonalité pour raconter ça?
En essayant d'être au plus proche de la façon dont le cerveau a rangé le souvenir. En l'occurrence, c'est une scène que je dessine dans le noir et dans le silence. Et ça me serait paru complètement artificiel et très bizarre de vouloir à tout prix mettre des images et mettre des mots alors que j'en ai pas. Donc essayer d'être le plus proche de ça, qui est le moins de transformation entre là où moi je l'ai rangé dans ma tête et comme il est rangé, et essayer de transmettre ça. Mais ce qui était difficile, et c'est là où vraiment ça me désespère, c'est que une de mes craintes, c'était que j'avais peur que les gens se reconnaissent.
et que je me disais quand même c'est peut-être que j'ai pas le droit de vraiment protéger toujours les agresseurs, c'est vraiment un toc quoi au bout d'un moment. Et je me disais j'espère que ça va pas faire des problèmes. Des baffes.
Pénélope, bon. je voudrais terminer cette petite conversation là où on l'a démarré avec en parlant de votre dessin. Vous avez dit quand on dessine toute la journée, tous les jours, on s'améliore forcément. Donc, je tends vers mon dessin parfait de vieille dame quand j'aurai 80 ans. Vous n'avez plus 3 ans quand vous avez commencé à dessiner. Vous êtes encore très loin des 80. Quelle note vous mettez-vous aujourd'hui en 2021, ce 23 novembre 2021?
Et bien logiquement, entre mes 3 ans et mes 80, je suis à mi-chemin, plus ou moins, donc 5 sur 10.
Ah non!
Non, 10 sur 10, comme à l'école fans. Allez, tout le monde à 10 sur 10.
10 sur 10, il y a encore une marge de progression. Bon, les strates, c'est signé Pénélope Bagieux, c'est édité chez Gallimard, et c'est évidemment chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Il est 16h34, c'est le moment du pop break dans ce Pop Pop Pop, c'est l'heure des pop news.
L'homme qui a fait rouler Ryan Gosling de nuit est de retour, ou pour être plus précise, l'homme dont la musique ouvrait Drive a dévoilé un nouveau titre, le premier en 8 ans pour Kavinsky, puisque c'est lui et c'est parti pour Renegade. Pour ce titre, Kavinsky a travaillé avec Victor Lemain et Gaspard Roger de Justice, ainsi que le chanteur Cautious Clay qu'on entend sur ce titre, qui a coécrit la chanson avec eux, et Renegade est dispo sur toutes les plateformes légales.
Avis à tous les signataires de la pétition, il revient enfin.
Hello.
I tell you something I did.
Ray?
Oui, c'est lui, Ray Donovan, dans un téléfilm qui viendra clore la série qui a été annulée finalement. Le film reprend là où la saison 7 s'est arrêtée, Mickey le paternel qui prend le large et Ray son fils bien déterminé à le retrouver avant un autre carnage. L'histoire reviendra aussi sur l'enfance de Ray et la bagarre Donovan versus Sullivan. Ambiance, car oui, il y a une bande-annonce.
Hear it from my father. He's not going up there for the money. He's going to kill Mickey.
You know, it makes you so alike. Mickey taught you how to forget.
Forget what, sweetheart?
Someone's life.
Ray Donovan, le film sera diffusé le 14 janvier sur la chaîne américaine Showtime et on espère très rapidement chez nous après.
Et arrêtez tout, l'édition 2022 du Festival Rock en Seine vient d'annoncer 11 nouveaux noms qui viennent compléter la programmation, qui comptait déjà Nick Cave, Tame Impala, Stromae, auxquels viennent donc s'ajouter Parcels, Idols, James Blake, Fontaines D.C., Youngblood et... Arctic Monkeys, et j'ai réussi à le dire sans crier, ce qui est quand même pas mal. Et Rock en Seine, ce sera du 25 au 28 août prochain, Domaine National Saint-Cloud.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Yeah. That's me.
Ray Donovan.
Mais oui, mais tellement facile aussi.
Ouais, bah,
hein,
trop.
Tellement facile.
Vous êtes pas, je vous remercie de ne pas vous être lancé sur Alex Turner.
Je peux le faire aussi.
Allez-y.
Yeah, ça te fait?
Non, à aucun moment.
Merci, Charline. Pénélope Bagieux, nous avons évoqué ce que vous écoutiez, à savoir les podcasts. Intéressons-nous à ce que vous lisez ou regardez en ce moment. C'est l'heure de votre pop-list. Votre livre du moment, Pénélope, c'est la carte postale d'Anne Berest, sortie à la fin de l'été, et qui là aussi plonge dans la mémoire avec une nuance sombre et dramatique et l'ombre portée de la dernière guerre. Charline, rappelez-nous le point de départ.
En janvier 2003, l'autrice trouve dans sa boîte aux lettres une mystérieuse carte postale. Elle n'est pas signée. On y voit l'Opéra Garnier d'un côté et de l'autre les prénoms des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle mort à Auschwitz en 1942. 20 ans plus tard, Anne Berest enquête pour savoir qui lui a envoyé cette carte postale.
Pénélope Bagieux, pourquoi cette carte postale? Merci de me répondre plus rapidement que mais la poste pour me faire parvenir une carte postale. C'est très clair cette phrase ou pas?
Ouais.
Oui, on a
ouais, ça va. Ça va.
Oui.
Parce que c'est une enquête mêlée à la vraie vie de quelqu'un écrit au présent. Ma phrase n'est pas très claire. Mais c'est des sauts dans le temps entre un passé
hyper bien raconté, c'est super haletant. Ouais. Un présent encore plus haletant parce que il y a quand même une scène où elle va chez Duluc détective. Il y a une vraie scène chez Duluc, c'est vraiment hyper prenant.
Et donc un détective parisien qui reste mystérieux pour tous les gens qui passent devant l'enseigne. C'est de la rue de Rivoli,
oui,
à Paris.
Qui était cité, ouais, dans les films de Truffaut, voilà,
dans les de Wes Anderson, ouais, ouais, partout. Et puis quand même un récit effectivement très sombre parce que ça, c'est Paris occupé et la France occupée qui est, on n'a jamais fini de lire des détails de cette époque-là, je pense. Mmh. Et c'est complètement captivant. J'avais hâte d'être dans le métro pour avancer, hâte le soir d'aller me coucher vite pour pouvoir le dévorer. C'est vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais pas autant été passionnée par un roman.
La carte postale d'Anne Berest. Pénélope, votre série en ce moment, c'est Impeachment. C'est la troisième saison de la série d'anthologie américaine American Crime Story. Impeachment qui signifie mise en accusation ou procédure de destitution. Charline, qui, quoi, où, comment et surtout pourquoi?
Portrait croisé de trois femmes lors de la procédure de destitution lancée à l'encontre du président Bill Clinton suite à la révélation de l'affaire Monica Lewinsky.
William Jefferson Clinton. Do you solemnly swear that you will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God?
I do.
I did not have sexual relations with that woman.
Alors, qu'est-ce que cette série a remué en vous, ma chère Pénélope?
C'est un des premiers souvenirs de scandale télévisé, en plus avec le début, ouais, d'Internet, dont je me souviens. Et à l'époque, je m'étais pas du tout posé la question de savoir ce qui pouvait vraiment se passer pour cette pauvre très jeune femme. Mm-hmm. Et là, vraiment l'histoire qui est d'un côté de Monica Lewinsky et de l'autre côté Linda Tripp, qui est en plus interprétée par Sarah Paulson, qui, pour changer, incroyable. Où vraiment on voit tout ce qui était à l'œuvre derrière et c'est super super palpitant aussi, en fait. Je sais que je parle quelque chose palpitante, mais là vraiment cette série là pareil, c'est on peut tout manger en deux grosses soirées et c'est vraiment on est happé.
D'accord, et bien soyez happé donc par cette série Impeachment recommandée par Pénélope Bagieu. L'amour flou de Roman Boringer, c'est votre film du moment, c'est un film qui a déjà 3 ans, je crois.
Oui, alors bravo pour le moment, mais c'est vrai que...
avec le décalage et tout ça, non, tout va bien. Charline, j'ai pas mes lunettes, pouvez-vous me dire pourquoi cet amour-là est flou?
J'ai mes heures progressives, je suis à l'épreuve des balles. Roman et Philippe se séparent après 10 ans de vie commune et 2 enfants, mais comme ils s'aiment encore beaucoup, leur vient l'idée d'un sépartement, soit 2 appartements. Séparés communiquant par la chambre des enfants.
Un immeuble neuf, 2 plateaux nus en béton. Et on va relier ces 2 plateaux nus par la chambre de nos enfants.
Nos enfants ne seront pas séparés de leurs parents.
Non, ils vont être au milieu. Si tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin.
Tu vas imaginer que je vais pas retomber amoureuse.
Tu vas plus jamais retomber amoureuse d'un mec qui va te faire 2 enfants.
Inspiré d'une histoire réelle, hein, comme on dit, l'amour flou à la vie.
Oui, avec les vrais enfants qui jouent dedans, avec son père. Je sais pourquoi est-ce que je l'ai vu maintenant, c'est parce qu'il est remis un peu à l'honneur en ce moment sur Canal, parce que c'est décliné en série. Mm-hmm. J'ai assez hâte de voir la série, mais voir le film en point de départ, il est vraiment super ce film, et il fait se sentir très bien.
Ouais. Et vous aimez bien cette idée d'un film qui s'inspire de la vraie vie des protagonistes?
Oui, après j'aurais plein de questions pour elle, ouais, en fait, pour lui demander comment elle a organisé ça concrètement, parce que ça doit être quand même une expérience particulière, même familiale, ouais, quoi, de filmer tout ça. Mais...
On confirme. Terminons cette pop list avec votre morceau du moment, et ce morceau, c'est celui-ci. C'est Madonna, c'est un morceau signé Snail Mail. C'est le nom du projet de rock indépendant en solo de la guitariste et chanteuse, compositrice, interprète Lindsay Jordan. C'est un morceau que vous n'écoutez pas en travaillant puisque vous écoutez des podcasts. Mais qui vous a grippé l'oreille?
Et tout ça, oui, tout son album. Il est incroyable, cette fille. Donc, je pense qu'elle a 22 ans. Qu'elle a commencé à faire des albums quand elle en avait 15. Et il y a une petite sonorité un peu 90, je trouve, dans vraiment certains morceaux où on dirait même un peu du hall. Et elle a une voix incroyable, et surtout j'aime bien les très jeunes artistes comme ça, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire à 30, à 35. Et l'album, il s'écoute vraiment, il est hyper hyper homogène, hyper agréable à Oui, il est super. Elle est super, cette fille.
Snail Mail et Lindsay Jordan, cette jeune femme dont on parlait. Je vous promets qu'on le passera en intégrale demain, ce morceau.
Génial.
Dans Pop Pop Pop. Mais là, pour aujourd'hui, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'écouter Uneasy. C'est un morceau de métronomie avec l'artiste franco-coréenne Spill Tab. C'est un morceau que je vous propose d'écouter tout de suite, juste avant de recevoir métronomie, justement. Allez. C'était bien Métronomie avec Spill Tab et ce morceau Uneasy. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ah, fait très longtemps que je ne l'avais pas fait, ça. Oui. Allez-y, Charline, il faut que je me détende maintenant.
De quoi? Vous voulez que je le fasse?
Non.
Je ne sais pas le faire, moi.
Non, je sais. Je dis non, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc ça, je suis un peu ému.
Enchaîné. Je vois ça.
Enchaîné.
Eh bien, on accueille donc Joseph de Métronomie, Joseph Mount. Joseph, bonjour déjà.
Bonjour Joseph. Bonjour.
Est-ce que votre français a progressé?
C'est la preuve.
Oui.
Oui.
Mais oui. J'espère que oui.
Ouais.
Mais pas assez pour une émission comme ça. Désolé.
Non, mais tout va bien. Laissez-nous vous présenter Pénélope Bagieux, c'est notre marraine.
Bonjour. Nice to meet you, bonjour.
Formidable autrice. Les présentations sont faites.
D'accord.
Joseph, vous étiez hier soir sur scène pour clôturer le Pitchfork Festival. Vous avez donc pu éprouver en live votre nouveau titre, It's Good to Be Back. Alors, sensation inédite ou, comme dans le clip qui l'accompagne, vous avez eu une impression de déjà-vu, voire de répétition?
It's both.
Un peu les deux.
It's very exciting.
En fait, parce que c'est vraiment passionnant de se retrouver de nouveau sur scène. C'est nouveau, c'est inédit. Mais en même temps, c'est bizarre. C'est un peu se retrouver dans la même salle avec des tas de gens. Ça, c'est toujours sympa.
Quand on a dit à Pénélope, c'est métronomie qu'on aura en studio avec nous, elle était toute contente. Elle c'est était toute contente, mais non, c'est pas gênant du tout.
Oui, j'étais très contente.
Mais voilà, pourquoi est-ce que vous aimez tellement métronomie, Pénélope?
C'est la pire situation pour expliquer pourquoi j'ai un
mais non.
C'est un moment de gêne totale.
Mais non.
Parce que c'est formidable, parce qu'on s'en lasse jamais. Je pense qu'on peut réécouter à l'infini les albums de métronomie, et c'est toujours bien. Et puis chaque album, en plus, me correspond à une petite time capsule pour moi, qui me rappelle quelque chose de précis, donc...
Parfait.
Très gênant.
Mais non, elle est toute rouge, comme son pull.
Et donc It's Good to Be Back, c'est un titre qui figurera sur le nouvel album de Metronomy, Small World, attendu le 18 février. Small World, parce que ces derniers mois vous ont donné une légère impression de rétrécissement, peut-être?
I mean... I guess it was like, yeah, I was just aware of.
Oui, un petit peu. J'avais, disons, le sentiment de me retrouver toujours en famille, chez moi, très proche d'un petit monde finalement.
But it's also like that kind of pathetic thing that you say when you meet people.
Quand on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, on dit, ah, le monde est petit, small world. Voilà.
Joseph, la dernière fois que vous êtes venu ici en studio avec nous, vous nous aviez dévoilé le secret de fabrication de vos morceaux. Parce que ces morceaux dont on parle, les morceaux de métronomie, vous les imaginez là. Sur votre tracteur, en tondant la pelouse. Donc vous avez fait combien de kilomètres avec depuis votre dernière visite?
In the tractor. Well, I mean, it's difficult because the tractor.
C'est difficile de comptabiliser parce que vous savez, il n'y a pas une jauge, il n'y a pas.
Non mais.
Au milieu des heures.
Okay. 100.
Peut-être une centaine de.
Une centaine de kilomètres.
Vous avez une grande pelouse?
Just a circle.
Je tourne en rond avec le tracteur.
Et Small World, cet album donc attendu pour février, est décrit comme, je cite, un projet qui présente également un avant-goût des choses à venir pour un groupe qui passe désormais plus de temps à la maison en famille qu'à faire la fête. Fin de citation. Forcément, on est très intrigué. Qu'est-ce que ça implique en termes de sonorité? C'est-à-dire, est-ce qu'on sera plus du côté du générique de Peppa Pig que de Hot Chip?
Peppa Pig. I keep hearing about Peppa Pig.
Justement, j'y pense beaucoup à Peppa Pig, on en parle.
But no, it's kind of like, non, I guess the idea is it's a sort of.
Disons que l'idée c'est un petit peu que Metronomy c'est le disque like national. Enfin, ça c'est un petit peu mon idée.
Nashville. So it's supposed to be
Nashville,
like a kind of very
plutôt
musical
que pour quelque chose de très musical,
and,
mais
and a bit sort of indulgent.
Mais une certaine indulgence avec.
Mm-hmm. Pénélope, vous parliez de time capsule tout à l'heure. Il y en a une en particulier qui vous revient en mémoire quand vous pensez à Metronomy.
Je me souviens d'un été où je pense que j'ai écouté Corinne peut-être 5000 fois. Donc oui, je me souviens très bien.
Maybe more than us.
Plus que nous alors.
Bon souvenir donc.
Ouais.
Ouais, excellent. Bon. Et pourtant, mon cher Joseph, de ces mois d'inactivité, pour certains, est né un EP spontané, POS volume 1, dont nous venons d'entendre un extrait. C'est un POSI. Oui, moi je dis POS. Un POSI composé de jeunes gens, hein, Pinty, Big Pig, Speed Tab, Sorry, Brian Nasty et Folly Group. 5 titres percutants. Comment est né ce projet? Qu'est-ce que ces jeunes et nouveaux collaborateurs vous ont amené?
That was like, so I'd finished the album.
Mais écoutez, je venais de terminer l'album.
Un album
à la Nashville où je me faisais plaisir un peu à moi-même, cette indulgence. Et puis se sentir de nouveau jeune. Donc c'était une façon de rencontrer de jeunes artistes, justement, de travailler avec eux. Et puis d'apprendre un petit peu ce qui se passait, parce que moi je suis un petit peu hors de la boucle maintenant.
Mais alors, du coup, est-ce que ça a un rapport avec la déclaration que vous avez faite? Je vous cite, le jour où je ne verrai plus de jeunes au premier rang lors de nos concerts et le jour où j'arrêterai. Est-ce que travailler avec ces jeunes pousses, c'est un bon moyen de s'assurer une certaine pérennité?
Exactement.
Et puis je les avais payés pour venir faire la claque au premier rang.
Bon, et si ma mémoire est bonne, j'ai annoncé un nouvel album pour le mois de février.
Absolument.
C'est bien cela.
Small World, 18 février.
Vous pouvez nous en dire un mot, mon cher Joseph?
About the album.
Sur l'album.
Incredible.
C'est un album absolument incroyable.
Perhaps the best one.
Peut-être le meilleur jamais fait.
Mais si l'ambiance est à Nashville, on doit danser line dance ou on peut continuer à clubber?
I mean, you can do what you like.
Comme ça vous plaira. Disons que cette idée de Nashville, c'était un concept, hein, peut-être pas non plus.
Je suis très premier degré.
Non, mais c'est un petit peu ça.
Bon, Joseph, merci d'être venu dans ce studio. Mais regardez, là, je vous fais un grand signe. Ça signifie qu'il faut que vous regagniez la scène mythique de Pop Pop Pop. Voilà, vous vous attendez de vos musiciens. Pour une version live d'un morceau qui a pour titre « It's good to be back », c'est bon de revenir. Mais évidemment que c'est bon de revenir. Bon, Joseph, dès que vous êtes prêt, vous me faites le signe et moi je vous envoie le pop de départ. Ok ?
Ok.
Il est en train de se mettre la pression. Okay. Ok, prêt ? Okay, attention. Okay. Oui, c'est vraiment du live. Hein. Attention, 3, 2, 1...
is gone. It's our favorite song. Oh no. I could have made a picture to tell you all about it. Let's do another circuit. Let's go around the houses. So good to be back, but our love is gone. It's our favorite song, and even when I'm wrong, I still care. Yeah, I still care for you. It feels so good to be right, so unreal to be alive. Oh no, let's go wake up the children. Tell them all about it. How you appeared in color and left no doubt about it. Oh, life, it's a cross that we all bear.
Good to be back. en live sur la scène de Pop Pop Pop. Voilà de quoi vous faire patienter jusqu'au 18 février prochain, jour de la sortie du nouvel album de Metronomy, Small World. Merci Joseph.
Merci.
Merci, merci beaucoup.
Metronomy en partie. Et j'en profite pour annoncer une tournée européenne en mars-avril avec un stop par Paris le 6 avril. Ce sera au Zénith. Et vous y croiserez sans doute Pénélope Bagieu.
C'est très probable.
C'est très probable. Et peut-être
on a hurlé sur Corinne.
Et peut-être même Charline Roux et l'équipe de Pop Pop Pop. Merci Pénélope.
Merci
Je
beaucoup.
Rappelle que Les Strates, votre premier récit autobiographique, est édité chez Gallimard et qu'il est plus que recommandé, dois-je le rappeler, par Pop Pop Pop. Merci Charline.
Merci.
À demain.
À demain.
Et merci à toute l'équipe de Pop Pop Pop, à Florent Layani, Julien Dumont, Laurent Baudouin qui était à la technique aujourd'hui. Et merci aussi à Robert Wolfenstein qui était notre traducteur. Demain dans Pop Pop Pop, Timothée Le Boucher vient nous présenter sa nouvelle BD. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.